Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur fréquence Paris pluriel 106.3 FM, dans l'émission mode d'emploi, c'est l'émission d'AC, AC c'est agir ensemble contre le chômage. Vous êtes au micro avec Gilles, votre serviteur, ainsi que Christophe et Ludo comme journalistes. Voilà.
Bonsoir.
Bonsoir. Et donc ce soir, nous allons parler évidemment de pas mal de choses, donc principalement de ACDC qui a tenu une conférence de presse mercredi dernier. C'était le numéro 4 sur les précaires, hein, donc a priori.
Les chiffres du chômage.
Absolument. Merci Ludo. Et voilà. Donc nous allons et puis bien d'autres choses évidemment. Donc nous avons commencé la semaine dernière. Nous avions reçu Philippe Julien de la CGT Peugeot qui était venu nous parler de la grève des ouvriers de Peugeot parce que le patronat de Peugeot avait employé des intérimaires qui faisaient le travail un petit peu des grévistes en gros, et ils avaient demandé également une rallonge de 300 euros sur leur salaire puisqu'ils n'avaient pas été augmentés depuis des années. Ils étaient venus nous en parler toute la semaine dernière. Je tenais à vous dire qu'ils ont gagné donc en référé. Le patronat de Peugeot a été condamné pour cet usage d'intérimaire.
Oui, en fait, c'est comme tu le disais, ce qui est intéressant dans cette victoire, c'est que Peugeot a été condamné parce qu'elle utilisait des intérimaires pour briser la grève des ouvriers permanents, ce qui est illégal dans le Code du travail. Et simplement, la jurisprudence et puis les modifications récentes du Code du travail ont fait que il était difficile de le contester auprès des prud'hommes et auprès de la justice. Donc c'est auprès de la justice en référé que ça s'est fait, et c'est donc une victoire importante puisque s'ils obtiennent leurs dommages et intérêts, et on le souhaite, ils pourront éventuellement continuer la grève.
Très bien. Merci Ludo pour ces précisions. De toute façon, nous les soutenons et nous continuerons à les soutenir évidemment dans ce cadre-là. Très bien. Alors, on va passer maintenant à CDC, qui est donc les autres chiffres du chômage, qui ont tenu mercredi dernier une conférence de presse numéro 4, hein, la quatrième conférence de presse, sur la précarité. Claude, notre technicien, est parti faire un petit reportage là-bas, sur place. Il nous a fait un petit montage. On l'écoute.
Bon, ben merci encore une fois d'être là, comme tous les mois. Donc, vous avez suivi évidemment la controverse autour des chiffres du chômage et tout le débat qu'il y a eu autour. L'objectif du collectif, ça a toujours été, comme son nom l'indique, les autres chiffres du chômage. Donc, de sortir de ce fétichisme du chiffre, comme on l'avait expliqué dans la présentation de l'initiative, parce que tout simplement, il y a plein d'autres réalités, au moins aussi importantes, à mettre dans le débat si on veut apporter des solutions pertinentes à la question de l'emploi. Et donc aujourd'hui, pour sortir par le haut de cette question, on met en débat un certain nombre de propositions qui s'appuient sur les résolutions du Bureau international du travail, donc qui ont été prises il y a près de 10 ans maintenant, concernant un certain nombre de concepts, comme, on connaît tous le chômage de vulnérabilité, mais au-delà de ça, il y a le concept de sous-emploi et aussi le concept qui de plus en plus gagne en pertinence, qui est celui de l'emploi inadéquat. Donc voilà, c'est autour de ces trois questions, encore une fois en reprenant simplement les résolutions du BIT, qu'on a essayé de mettre un certain nombre de chiffres, d'indicateurs derrière ces réalités pour poser de façon complète la question du chômage, du sous-emploi et de la précarité aujourd'hui. Donc je vais laisser la parole à Thomas.
Oui, donc en 86, l'INSEE avait publié par la voix de son directeur général d'alors, Edmond Malinvaux, un rapport sur les statistiques du chômage qui préconisait, ça fait plus de 20 ans, donc l'élaboration d'une batterie d'indicateurs pour rendre compte de la diversité des situations de chômage et de sous-emploi. En 97, le commissaire au plan de l'époque, Henri Guénaud, publié un rapport sur le chômage, le cas français, où il s'essayait à mettre en œuvre un peu la recommandation du rapport Malinvaux, c'est-à-dire à quantifier la diversité des situations de chômage, de privation d'emploi et de sous-emploi à partir des statistiques disponibles. Mais on peut dire que, hormis ces recommandations et ces initiatives qui sont restées sans lendemain, le système statistique public continue imperturbablement à publier, pour l'essentiel, un taux de chômage autour duquel se focalise la discussion. Et on n'a pas de système d'indicateurs réguliers et cohérents qui permettent d'évaluer la situation, l'évolution de la situation du marché du travail de façon conjoncturelle et annuelle. Donc il nous semble que cette situation n'est plus possible, n'est plus soutenable. Le système d'indicateurs officiels est discrédité aujourd'hui avec la controverse autour du chômage BIT et de l'enquête emploi de l'INSEE. Et donc, nous proposons, alors, le collectif a travaillé avec les statisticiens qui sont membres du collectif sur la base des données de l'enquête emploi, des enquêtes emploi de l'INSEE depuis 1990, donc de 90 à 2005, puisque nous n'avons pas évidemment accès à l'enquête emploi de 2006, malheureusement. Nous avons travaillé sur la base de ces données pour proposer au débat public des indicateurs de chômage et surtout de sous-emploi et d'emploi inadéquat au sens du BIT. Alors, je vais expliquer rapidement ce que c'est que l'emploi inadéquat au sens du BIT, qui montre, alors le résultat principal de ce travail, c'est qu'aujourd'hui 11,4 millions de personnes se trouvent dans une situation d'emploi inadéquat au sens du BIT, donc je vais tout de suite expliquer ce que ça veut dire. Et si on ajoute à ça le nombre de chômeurs au sens du BIT, c'est-à-dire 2,6 millions, on aboutit à un total de 14 millions de personnes, c'est-à-dire 51% de la population active, qui sont soit au chômage, soit dans une situation d'emploi inadéquate. Donc on voit que c'est une dimension considérable par rapport au simple chiffre du chômage qui, lui, tourne aux alentours de 10% depuis une vingtaine d'années. Donc le message important qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est qu'au-delà des fluctuations conjoncturelles du taux de chômage, qui, je le répète, depuis une vingtaine d'années aussi autour de 10%, hein, entre 8 et 12%, au-delà de ces fluctuations, on a assisté à une augmentation continue du nombre et du taux, la proportion, disons, d'emplois inadéquats par rapport à la population active. Alors, qu'est-ce que c'est que l'emploi inadéquat au sens du BIT? On s'est basé donc sur la résolution de la 16e conférence internationale des statisticiens du travail, tenue en 1998 à Genève. Cette conférence internationale des statisticiens du travail a défini des concepts, notamment le concept de sous-emploi et le concept d'emploi inadéquat. Et nous nous sommes basés pour l'essentiel sur cette résolution, en y apportant des interprétations, parce que c'est une résolution qui reste assez vague dans son nombre de détails. Mais nous sommes basés sur les concepts définis par cette résolution pour quantifier les indicateurs d'emploi inadéquat et de sous-emploi que nous proposons aujourd'hui au débat. Alors, l'emploi inadéquat se décompose en 4 sous-catégories. Les bas salaires, les contrats précaires, le sous-emploi et les emplois insoutenables. Alors, je reprends point par point. Les bas salaires, c'est... Alors, il y a une définition statistique du bas salaire, qui est une définition d'ailleurs européenne. Les bas salaires, ce sont les salaires mensuels inférieurs aux 2/3 du salaire médian. Les contrats précaires, bon, ce sont les contrats CDD, intérim, stage, emploi aidé, durée limitée, qui ne permet pas de prévoir, de construire un avenir, d'emprunter, d'accéder au logement, etc. Alors le sous-emploi, nous avons adopté une notion de sous-emploi un peu différente de celle qu'utilise l'INSEE. Alors l'INSEE s'est limité pour l'instant à calculer le sous-emploi lié à la durée du travail, ce que le BIT appelle le sous-emploi lié à la durée du travail, qui est en fait les personnes à temps partiel qui souhaitent travailler davantage. Alors cette catégorie de sous-emploi nous semble intéressante mais très restrictive, parce qu'en fait le BIT appelle sous-emploi, dans cette résolution, hein, un concept plus large de sous-emploi, et notamment inclut les emplois où les qualifications et les capacités des personnes sont sous-employées. Donc nous avons utilisé un concept de sous-emploi qui est les emplois qui ne permettent pas l'utilisation des qualifications et des capacités des personnes. Et quatrième catégorie qui compose l'emploi inadéquat, c'est ce qu'on appelle les emplois insoutenables, c'est-à-dire les emplois qui sont dangereux pour la santé, qui ne préservent pas la santé de ceux qui les occupent. Et donc, l'ensemble des personnes qui sont soit qui ont un bas salaire, soit qui sont en contrat précaire, soit qui sont en sous-emploi, soit qui ont un emploi insoutenable, un emploi qui ne préserve pas la santé, l'ensemble de ces personnes, ça représente 11,4 millions de personnes aujourd'hui, en tout cas en 2005. Alors, si je reprends maintenant catégorie par catégorie, donc les bas salaires. Les bas salaires, ça représente 3,8 millions de salariés, 14% de la population active. Alors, le salaire médian en 2005, c'était 1240 euros. Deux tiers du salaire médian, ça fait 818 euros. Hein, donc, on a 3,8 millions de salariés qui gagnent moins de 818 euros par mois. C'est-à-dire, ça représente 86% du SMIC net. Hein. 86% du SMIC, c'est quand même pas beaucoup. On peut dire que c'est vraiment un bas salaire. Alors, la grande majorité de ces personnes à bas salaire, sont des gens à temps partiel. Surtout des femmes, monsieur, parce qu'on sait que les femmes représentent plus de 80% des salariés à temps partiel. Cette catégorie des travailleurs à bas salaire a augmenté, enfin s'est développée nettement dans les années 90, parce que sous l'impact du développement du temps partiel, qui a été favorisé par des exonérations de cotisations sociales dans les années 90. Mais les bas salaires concernent aussi les salariés à temps plein. Curieusement, ça pourrait paraître bizarre, pourquoi est-ce qu'il y a des salariés à temps plein qui gagnent moins de 86% du SMIC net mensuel ? Bien parce que ce sont des salariés qui sont rémunérés pas pour la totalité du mois, c'est-à-dire des gens qui enchaînent des contrats mais qui se trouvent au chômage pendant une période du mois. Donc ils travaillent à temps plein pendant les jours où ils travaillent, mais ils ne travaillent pas de façon permanente. Et donc la précarité, le développement des emplois précaires contribue au développement des bas salaires. Deuxième catégorie, donc deuxième sous-catégorie qui constitue le concept d'emploi inadéquat, c'est donc les contrats précaires. Alors là, les chiffres sont bien connus, étaient connus avant qu'on les publie là. C'est 2,7 millions de salariés, soit 10% de la population active, sont en CDD, en intérim ou sur un contrat saisonnier, un stage ou un emploi aidé. Là, c'est clairement quelque chose qui a fortement augmenté au cours des années 90, qui continue à augmenter à un rythme ralenti aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est surtout l'intérim qui se développe. La précarité, on le sait, est concentrée sur certaines catégories de salariés. La majorité des précaires de ces 2,7 millions sont des femmes et la moitié ont entre 15 et 29 ans. Le CDD n'est pas une situation nécessairement définitive. On sait qu'entre un tiers et la moitié des CDD débouchent sur un CDI. On sait aussi que les intérimaires ne sont pas tous intérimaires malgré eux. Il y a une minorité estimée à peu près 20% des intérimaires qui le font par choix. Hein. Néanmoins, il nous a semblé que prendre les contrats précaires comme indicateur d'emploi inadéquat était tout à fait justifié. D'ailleurs, c'est l'OIT lui-même qui le suggère. Parce que l'extension de ce type de contrat à durée limitée est un signe non ambigu de la précarisation du marché du travail, de l'insécurité sociale. Et la preuve la plus claire en a été la réaction de la jeunesse face au projet de CPE l'année dernière, qui montrait bien le sens qui est attribué par la grande majorité des gens à ce type de contrat. Troisième composante de l'emploi inadéquat, le sous-emploi. Donc là, on a estimé pour 2005 à 5 millions de personnes, c'est-à-dire 18% de la population active, des personnes que nous avons qualifiées en sous-emploi de leur qualification ou de leur capacité. Alors, quels sont les critères qu'on a utilisés ? D'abord, ce sont des salariés, donc ce sont des gens qui ont un emploi, mais qui sont inscrits à la NPE, ou bien qui déclarent dans l'enquête emploi qu'ils recherchent un autre emploi. Ils ont un emploi, mais ils recherchent un autre emploi. Donc ça, c'est un premier critère, c'est des gens qui cherchent un autre emploi, ils sont inscrits à l'NPE ou ils déclarent rechercher un autre emploi. Et le deuxième critère qu'on a utilisé, c'est les gens qui sont déclassés par rapport à leur diplôme. Donc des gens qui occupent un emploi, par exemple, d'ouvrier, alors qu'ils ont un diplôme supérieur au bac, ou des gens qui occupent un emploi d'ouvrier, d'employé ou de profession intermédiaire, alors qu'ils ont un diplôme universitaire de second ou troisième cycle. Donc, la première catégorie, les salariés inscrits à l'NPE ou qui recherchent un autre emploi, c'est 3 millions de personnes. Et on sait que c'est une proportion qui a augmenté très fortement. C'est ce qu'on appelle les activités réduites parmi les demandeurs d'emploi. Et les salariés, déclassés, ça représente 2,6 millions de salariés. Alors, 3 plus 2,6, ça fait pas 5. Vous allez me dire, eh bien, c'est parce que ça fait... J'ai dit qu'il y avait 5 millions sous emploi. Je vous ai dit 3 millions inscrits à l'NPE ou en recherche d'emploi et 2,6 millions qui occupent un emploi sous-qualifié. Eh bien, c'est parce qu'il y en a qui sont dans les deux situations. C'est des chiffres qu'il faut faire attention pour les cumuler. Il faut éviter les doubles comptes. Hein. Donc le 5 millions que j'évoque, c'est des gens qui sont soit inscrits à l'NPE en recherche d'emploi, soit en déclassé. Et donc la dernière catégorie, la dernière composante de l'emploi inadéquat, c'est ce que nous avons appelé les situations de travail insoutenables. 4,3 millions de personnes, 16% de la population active, donc ce sont des gens qui ont un emploi, salariés. Emploi soutenable, je répète, c'est emploi dangereux pour la santé. Dans l'enquête emploi, malheureusement, on dispose de très peu d'indicateurs sur les conditions de travail. En réalité, on a des indicateurs sur la durée du travail. Donc on était obligé de se limiter à ça. On a utilisé le critère travailler régulièrement la nuit. Donc ça concerne 1,8 million de salariés. Ou travailler plus de 44 heures par semaine. Et ça concerne 3 millions de salariés. Là encore, il y en a qui sont à la fois en travail de nuit et travaillent plus de 44 heures par semaine. Donc au total, ça fait 4,3 millions. Il nous manque beaucoup de gens hein, dans cette catégorie parce qu'on n'a pas les indicateurs dans l'enquête emploi qui permettent de les évaluer. D'autres enquêtes, des enquêtes du ministère du Travail permettraient, mais ce ne sont pas des enquêtes annuelles, ce sont des enquêtes beaucoup plus espacées, permettraient d'avoir des indications plus précises. Par exemple, l'enquête Sumer en 2003 évaluait à 2,4 millions le nombre de salariés exposés à des agents cancérogènes dans le cadre de leur travail. Mais là, on les a pas inclus. Ces 2,4 millions, ça amènerait à gonfler encore de façon importante les évaluations en matière de travail insoutenable, mais on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas ces données régulières dans l'enquête emploi. Voilà, donc si on ajoute... Alors, on ne peut pas sommer hein, les quatre... si je reprends les chiffres, 3,8 de bas salaire, 2,7 de précaire, 5 millions de sous-emploi et 4,3 millions de travail insoutenable... Si je fais la somme, j'ai nettement plus du chiffre que je vous indiquais tout à l'heure, qui est 11,4, mais le 11,4, ça tient compte des doubles comptes, c'est-à-dire ça tient compte du fait qu'il y a des gens qui sont à bas salaire et qui ont aussi un emploi précaire, il y a des gens qui ont un emploi précaire et qui sont aussi en sous-emploi, etc. Il y a même des gens qui sont à la fois dans les quatre situations. Donc il ne faut pas les compter deux ou trois, quatre ou quatre fois, ces gens-là. Donc l'enquête emploi permet justement d'éviter ces doubles comptes, ce qui permet d'avoir un indicateur. C'est pour ça qu'on parle d'indicateur cohérent, hein, c'est-à-dire un indicateur qui évite de faire des calculs faux en ajoutant des catégories qui ne sont pas cumulables. Voilà, alors ça fait donc 11,4 millions pour le travail, pour l'emploi inadéquat, 41% de la population active. Si on ajoute les 2,6 millions de chômeurs BIT, donc 14 millions de personnes qui sont soit au chômage, soit en emploi inadéquat, c'est-à-dire donc plus de la moitié de la population active.
Et oui, ce sont des chiffres qui font peur. Vous pouvez éventuellement écouter l'intégralité de cette conférence sur notre site à mode d'emploi. Je rappelle ce site, c'est mode au pluriel -d-emploi.net. Donc allez-y tous, écoutez cette conférence en entier, c'est très intéressant. Oui, effectivement, 14 millions de chômeurs et d'emplois inadéquats, comprenant évidemment 5 millions de sous-emplois, 85% qui touchent au moins de 818 euros, Ça fait froid dans le dos. Ludo, tu voulais réagir?
Oui, je voulais rappeler hein, les 3,8 millions de salariés, 14% de la population active qui reçoivent grosso modo 800 euros à peu près. Oui. C'est sans compter donc les chômeurs et les rémistes, puisqu'on arrive à un total de 8 millions selon en toutes catégories confondues, donc 8 millions de personnes.
De chômeurs.
De chômeurs. Et la conférence ne portait pas là-dessus, mais on n'a pas parlé non plus aussi du taux de SMICAR en France, puisque l'INSEE, Christophe vous en parlera mieux que moi, mais l'INSEE n'a pas non plus rendu public le taux de SMICAR en France, ce qui permet à M. Sarkozy de faire des grosses bourdes lors de ses interventions télévisées.
Absolument.
Et que personne ne lui dit rien d'ailleurs.
Une réaction, Christophe, sur cette...
C'est la confirmation de ce qu'on sait depuis des années, ce qu'on dénonce assez depuis des années, c'est clair. Bon, maintenant, la question qui se pose, c'est que ça pose plusieurs paramètres. D'abord, c'est les conditions de travail, puisque dans l'emploi pénible, on n'en parle pas assez. Je tiens quand même que...
4,3 millions de gens qui travaillent dans un emploi pénible. Hein.
Oui, mais je tiens quand même à rappeler que le gouvernement actuel a abrogé un certain nombre de lois pour permettre, par exemple, aux enfants de 15 ans de travailler la nuit, ainsi qu'aux femmes.
Donc, ça avait déjà été commencé par le gouvernement socialiste.
On va y venir aux socialistes. C'est-à-dire que c'est quand même des gens qui ont introduit la précarité grâce aux lois des 35 heures, qui ont mis de fait dans la loi la flexibilité de façon globale. Et les entreprises en ont énormément profité. Or, quand tu mets en place tous ces paramètres, tu te rends compte d'une chose qui est extrêmement grave, c'est que l'exonération des charges patronales, plus la flexibilité de l'emploi, plus les rendements de production qui sont de plus en plus forts, est-ce que ça a rendu nos pays compétitifs ? Non, Pas du tout. Parce que derrière, il y a la financiarisation de l'économie qui fait que bah, ça profite aux rentiers, aux gens qui travaillent pas dans ce pays ou qui gagnent plus de 10 000 euros net par mois et qui ont les possibilités de placer en bourse leur argent. Donc, tout simplement. Donc, je veux dire, ça profite pas. En fait, cette économie, elle tourne en boucle, elle profite pas bah, aux Français moyens. Voilà.
Oui, je voulais juste rajouter deux points. D'abord, bon, il faut rappeler qu'ACDC, au départ, enfin, dénonce le fait que le chiffre du chômage, est, enfin, tel qu'il est présenté hein, au journal de 20 heures tous les mois, est un chiffre qui est politique. C'est-à-dire que, enfin, c'est un choix, le choix de donner ce barème-là au sens du BIT, c'est purement politique parce que si on veut tout prendre en compte, il faut aussi prendre en compte, eh bien, la précarisation du monde du travail et l'appauvrissement. Voilà, et comme ça évite aux gens de plastronner, au gouvernement de plastronner pour dire on a la lutte pour le chômage, on a réussi. Et la deuxième chose, c'est vis-à-vis du déclassement. C'est vrai que c'est un des problèmes les plus préoccupants, et notamment vis-à-vis des jeunes, parce que il y a un problème de débouchés. On a un système de formation qui est probablement un des meilleurs au monde, semble-t-il, au niveau supérieur, puisqu'il, avant tout parce qu'il est public et qu'il est accessible à tous. Or, bah, ces jeunes gens, y a un certain nombre qui partent à l'étranger, puisque on a à la fois une raréfaction des emplois bien numérés et bien qualifiés, et par contre, on a une multiplication des emplois qui sont sous-rémunérés et qui sont précaires en intérim, ce qui évidemment alimente l'immigration et ce qui justifie aux yeux de l'OCDE et de l'Union européenne toutes les politiques de mise d'employabilité ou de mise les politiques qui conduisent les personnes quel que soit leur diplôme à accepter n'importe quel type d'emploi. Et c'est dans les directives c'est déclaré ouvertement par l'OCDE, quoi.
Oui, c'est un peu la directive Wolkenstein quelque part, quoi, non?
C'est pas non, mais pas bon, vraiment. Ça va avec.
Oui, ça va avec.
Ça va avec.
Merci pour ta. Oui,
Christophe. C'est les conséquences absurdes d'une idéologie néolibérale.
Oui, bien sûr. Oui,
et pour terminer aussi sur la question, je voudrais rappeler que vous vous souvenez sans aucun doute que l'INSEE a repoussé à l'automne les élections, la publication de ces chiffres du chômage à elle, annuel, qui corrigeait les chiffres de la NPE. Mais elle a quand même transmis ces chiffres, enfin, ou plutôt le résultat de ces enquêtes emploi, sur lesquels sont basés ces chiffres, à l'Union européenne, comme la loi le lui oblige depuis 2002. Donc Eurostat a analysé ces chiffres, est en train d'analyser au compte-goutte ces chiffres, et donc selon les premiers résultats, effectivement, il confirme qu'à partir de janvier 2006 exactement, eh bien, le taux de chômage n'est pas de 9,4 comme le donnait la NPE, mais de 9,8%. D'accord. Donc déjà, on a déjà un début.
On est très loin des 8,4 prévus par. Des 8,4 que disait Sarko ou son
oui, c'est
staff,
ça, voilà, c'est déjà. Ça. Mais alors, oui, des. Voilà. Donc, d'accord. Ça veut tout dire.
Merci Ludo. On va passer une petite chanson, ensuite on reprendra sur le chômage.
Eh bien Marianne avec tes flics a joué la démocratie. Sous trois passants, il y a deux indiques et le troisième est en habit. Mais sous les airs un peu bégales, il y a la révolution qui gronde, il y a la révolution qui gueule. Et moi je me marie ma blonde.
Et oui, c'était Marc Augeret, un des plus grands chanteurs révolutionnaires qu'on le connaisse en France, en tout cas, avec Ferré et puis d'autres. Ils sont pas beaucoup, ils sont à peu près 5, hein, on va dire, ou une dizaine. Voilà. Donc, cette émission continue, c'est l'émission de mode d'emploi d'AC, Agir ensemble contre le chômage. Nous parlons de chômage, justement, aujourd'hui, avec ACDC, tout à l'heure. Donc, on a un appel, je crois, à un auditeur en ligne.
Bonsoir à tous.
Bonsoir, Joël.
Bonsoir, Joël.
Joël, j'espère que vous allez bien.
Merci, toi aussi. Ça va?
Ça va.
Comment?
Ça va?
Oui, ça va, oui. Deux petites choses. Bon, maintenant c'est une certitude. Effectivement, ces fameux chiffres. Et encore ce mois-ci, l'Ouravie est sorti du bois, puisque Monsieur Borloo, tout content, brandit les chiffres. Et on est quand même dans le déni, quand même. On arrive presque quasiment dans le déni, quoi. Hein. C'est quand même assez fou, quoi. Hein. Mais bon. Oui. Moi, je voulais revenir sur deux choses par rapport au travail et au non-travail, je dirais. Car autour de deux films qui sortent, l'un de Pierre Karl, c'est Volem, Rien foutre al pais.
Oui, excellent.
Et l'autre film, alors là, on est dans le travail, mais dans une autre forme de travail, c'est Les Lippes ou l'imagination au pouvoir, de Christian Rouault. Alors, à ce sujet, demain à Gennevilliers, donc au cinéma Jean Vigo, il y aura une projection de ce film avec un débat après avec Charles Piaget, qui était l'un des enfin j'aime pas trop ce mot, mais j'arrive pas à en trouver un autre, de leaders syndicaux de l'époque. Et mine de rien, Lippe avait été une super, bon, moi j'étais un peu jeune certes, puisque, mais après j'ai appris pas mal de choses là-dessus, c'était quand même une super expérience sur l'autogestion, quoi.
Oui.
Malheureusement, c'est vrai que l'État y a mis 10 fins avec ses forces armées, mais je trouve que quand même, c'est intéressant justement. Je pense que ce film, enfin, on verra demain, mais je pense que ce film ne vient pas au hasard, quoi, actuellement. Je pense que ces deux films, d'ailleurs, parce que d'un côté, effectivement, c'est une autre trajectoire peut-être que le travail, j'allais dire forcé actuel que nous avons. Et puis, d'un autre côté, comment les salariés se réapproprient leur outil de travail, quoi.
Oui, c'est ça. Tu veux dire que tu es nostalgique, c'est ça, que tu es nostalgique du temps où on croyait encore à l'autogestion et où...
Mais tu as raison, il faut y croire encore,
c'est
oui.
C'est pas de la nostalgie, hein, parce que la nostalgie n'est pas très bonne conseillère et puis c'est plus des rancœurs qu'autre chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans le système de travail où on arrive complètement au bout. Et bien sûr, en bout, et avec cette fameuse croissance...
Non, mais c'était une blague. Hein. Il y a des expériences en Amérique du Sud d'autogestion, et ça marche pas si mal. Alors évidemment, c'est parce que chez eux, la monnaie vaut plus rien. Finalement,
non, mais autant se débrouiller tout ça. Dans un monde antilibéral, ce n'est plus une fin, c'est un début.
Mais moi, je pense que au contraire, ici, nous avons les. Je pense qu'en France, nous avons les moyens de le faire. Mais il faut que la peur change de camp.
Oui.
Je crois que là-dessus, tant que la peur ne changera pas de camp, et ce qui s'est passé, je dirais, mardi dernier, Gare du Nord. Je ne veux pas faire un parallèle, mais bon, tout de même, on sent que il y a un frémissement et qu'à tout moment. Qu'à tout moment, ça peut basculer. Alors, ça peut basculer plus ou moins tragiquement. Mais je pense qu'on tient de moins en moins les gens en respect, si je puis dire. Parce que c'est vrai qu'il y a des forces de police partout. Mais il commence effectivement à y avoir, on voit les grèves qui se passent. Moi, j'espère qu'effectivement, à Marseille, ils vont tenir le coup et que la France va être vraiment à sec et qu'il n'y aura plus une goutte, vraiment une goutte de pétrole dans les stations-service. Et qu'on soit vraiment, que ce soit la pénurie, vraiment, pour que là, on puisse vraiment, on puisse aller de l'avant, quoi. J'espère qu'ils tiendront le choc et qu'ils cesseront pas impressionnés parce qu'on est en train de leur dire entre ça nous coûte tant par jour de grève et tout ça, quoi.
Tout à fait. Mais de toute façon, on va en parler de Marseille. Je te remercie de ton appel, hein.
Voilà. Bah, je vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée à toi. Merci.
Et puis, bonne émission.
Okay.
Merci.
Ciao. Au revoir.
Au revoir.
Oui, à Marseille, on va en parler tout à l'heure. Mais j'aimerais d'abord en revenir sur le démantèlement des ANPE. Dis-moi, Christophe, les ANPE vont passer au privé, a priori. On démantèle un peu le service public, encore une fois.
Alors, je vais lire un petit communiqué de presse d'un certain nombre de syndicats ANPE. La direction, je cite, hein, la direction générale, après avoir rompu tout dialogue social, persiste et signe. Jean-Louis Borloo, avec la complicité du gouvernement et en accord avec le directeur général, n'a pas hésité à faire passer en force le décret instituant en partie le démantèlement de la ANPE. C'est un décret qui date du 27 mars 2007, donc qui a été publié ce jour au journal officiel. Le directeur général s'empresse de relayer l'information concernant l'apparition du décret en la diffusant sur le site Alice de la ANPE sous la rubrique « L'indispensable à destination de tous et de tous les salariés ». De ce fait, il y a une revendication, il y a eu une grève le 29 mars qui a été très suivie à l'appel des organisations EFO, CGT, CFDT, SNAP, CFTC, à l'ensemble des syndicats. On n'est qu'au début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sous prétexte de rentabilité, il y a une nouvelle offre très juteuse en termes de bénéfices pour les boîtes privées, c'est le placement des chômeurs par les sociétés d'intérim. C'est-à-dire que les sociétés de travail temporaire, grâce à ce décret, sont autorisées maintenant à recruter massivement et à placer des chômeurs depuis la fin du monopole de la NPE en 2005 sous le prétexte de libéralisation des services. Donc c'est encore une logique ultralibérale appliquée selon l'ordre de Bruxelles. C'est-à-dire des gens qui n'ont jamais été au chômage, qui ne savent pas ce que c'est que le chômage et qui ne sont jamais, pour la simple et bonne raison, qui sont aux fonctionnaires, je le rappelle. Donc ces gens-là ont placé pour l'année 2005 26 500 personnes. Alors on me dit, c'est très bien, ils ont des contrats, etc. Effectivement, on a quand même dans 70% des cas des recrutements qui portent sur des postes en CDI, super. Sauf que les gens en question, ils ont près de 2000 euros, près de 2500 euros par personne pour gérer le dossier. C'est-à-dire que les boîtes d'intérim qui font ça, elles gèrent 40 dossiers alors qu'un agent NPE en gère 150. Alors effectivement, avec une telle différence de productivité et de nécessité de travail et de suivi, on comprend les différences de résultats. Sauf que c'est notre argent à nous qui cotisons, les cotisants qui supportons cette situation.
Oui, comment on vit avec l'argent du... Enfin, comment le chômage fait vivre des boîtes, en fait, hein, c'est pas nouveau. Et puis, la deuxième chose, c'est que d'après les statistiques, évidemment, de la NPE, l'efficacité n'est pas
n'est pas démontré,
parce que c'est, comme tu l'as précisé, c'est des boîtes d'intérim et au bout de 6 mois, hein, ou voilà, en étant
exactement.
Large, les gens se retrouvent au chômage.
Absolument. Ouais.
Non, mais c'est honteux.
Par contre, ça fait tourner.
Oui, et puis
c'est un type d'activité.
C'est-à-dire que un certain nombre de boîtes ont déclaré, je cite, ça nous a rapporté 65 millions d'euros en 2006 et ça devrait s'accroître en 2007 pour un chiffre d'environ 85 millions. Je suis furieux en traitant les chômeurs de feignants qu'on investisse autant d'argent pour si peu de résultats. Enfin, c'est un vrai scandale. Et puis c'est totalement idéologique. C'est-à-dire que non seulement ça crée pas d'emplois au final, c'est pour magouiller les chiffres, mais en plus ça coûte plein de fric aux contribuables.
Tu n'as pas compris. Il faut que tu sois employable. C'est-à-dire, il faut que tu sois, surtout que tu n'aies pas un revenu minimum qui fasse en sorte que tu refuses des boulots qui sont dégradants, que tu estimes dégradants, mais que tu sois prêt à tout pour aller travailler. Et donc, pour être prêt à tout, il faut que tu sois
employable.
Au plus
ça
bas
aussi,
niveau.
Voilà. Employable, ça veut dire aussi pouvoir changer les chaises de place dans une maison de jeunesse pour 800 euros, quoi.
Pour 800 euros. Donc là, ça nous revient donc à une question pour 2006. Et devinez combien il y a de SMICAR pour 2006.
Non.
Eh bien, c'est bizarre parce que cette année, élection oblige, on peut se poser la question. Le taux 2006 des salariés payés au SMIC n'a pas été divulgué, en plus du fameux taux du chômage selon l'INSEE. Alors, je rappelle une chose, c'est que l'année dernière, au mois de février, il y a eu un coup de tonnerre puisque la DARES, qui est l'organisme statistique du ministère du Travail, annonçait 2,54 millions de SMICAR au 1er juillet 2005, soit 16,8% de la population active. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le plus haut niveau de SMICAR enregistré depuis 20 ans. Ce qui veut dire que les gens qui rentrent sur le marché du travail, ils s'appauvrissent par rapport à leurs parents.
Ah oui.
Tout simplement, avec des niveaux de qualification bien supérieurs. On le rappelait, on l'a déjà dit. Or, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que pour cette année, le score de 2006 serait largement supérieur. C'est donc non plus 18%, mais on limite 20%, et c'est pour ça qu'on publie pas les choses. Hein. Or, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que M. Sarkozy a déclaré dans une émission politique, j'ai une question à vous poser sur TF1, que le SMIC, c'est le salaire de la moitié des Français. Sauf que lui, il en palpe 20 fois plus, ignorant ce que c'est que le vrai salaire médian, c'est-à-dire 1484 euros net par mois selon 2004. Ça permet pas vraiment de vivre super mieux. En tout cas, c'est un constat qu'on partage avec Actif Chômage qui nous livre ces données statistiques et ce petit commentaire. Il est clair qu'après la non-révélation du vrai taux de chômage, qu'aujourd'hui, la réalité des SMICards n'est pas vraiment aussi à mettre en avant dans les médias.
Pour en revenir tout à l'heure, tu parlais du démantèlement des NPE. Moi, je trouve ça un petit peu, ça fait un peu peur, mais en même temps, ça va pas grand chose non plus, hein, quelque part. enfin, elles sont, c'est quand même bien qu'elles soient là, hein, pour les chômeurs. Est-ce que ça, le but, il n'est pas de faire en sorte qu'il y ait moins en moins de chômeurs et qu'ils puissent disparaître?
Que les chômeurs disparaissent. Oui, écoute, voilà. C'est le titre d'un livre qui s'appelle Chômeurs, qu'attendez-vous pour disparaître? Manifeste sur une société en peine d'humanité. C'est des textes recueillis et présentés par Jean-Jacques Rebout. Alors, il n'est pas évident à trouver, hein, puisque c'est une petite maison d'édition. C'est Après la Lune, ça s'appelle. C'est un livre qui raconte, qui est né d'abord de l'expérience de 57 chômeurs qui touchaient la SS et qui ont été convoqués à la NPE Saint-Georges, où ils ont appris qu'ils commençaient un stage de remotivation de 200 heures le lendemain matin de leur convocation. Évidemment, ils perdaient leurs ASS s'ils refusaient. Et donc, ils ont effectivement rédigé un livre avec l'aide de Fabienne Brutus, Léa Rico, Olivia Hagel, qui sont tous des gens qui sont très concernés par la question et qui la connaissent bien, et dont les titres de chapitres s'intitulent « Les chômeurs, combien de divisions ? Manifeste sur une société en perte d'humanité, les grandes solitudes du chômeur de fond ». Donc vous avez compris, c'est d'essayer de, par ce livre, d'essayer d'aller à l'encontre du discours dominant, hein, les chômeurs sont des fainéants, pour bien expliquer aussi la solitude du chômeur de fond, c'est-à-dire du chômeur de longue durée.
Bien. Merci Ludo. Dis-moi Christophe, c'est toi Ludo qui voulais parler de la grève à Marseille, hein,
je voulais parler de ça dans le cadre en quelque sorte de directive Bolkestein. C'est pas tout à fait ça, mais c'est pratiquement ça. C'est-à-dire que vous vous souvenez sans doute que dernièrement il y a eu une grève des dockers, c'était il y a un an je crois, qui s'est déroulée à Strasbourg et qui a conduit les 10 dockers à casser les vitrines du Parlement et aller agresser les flics dans la grande tradition des
manifs ouvrières.
C'est exactement ça, mais il faut voir aussi que le Parlement européen s'apprêtait à leur pondre une directive qui était la directive Bolkestein appliquée aux ports, la libéralisation des ports, et qui autorisait chaque navire, a amené ses dockers pour décharger sa marchandise. Oui. Ce qui est un comble, parce que finalement le trafic fluvial, au portuaire, se porte très très bien. Il n'y avait pas d'argument majeur, économique majeur. Simplement, c'était une façon de mettre en concurrence des dockers de bas salaire avec les dockers sur place, avec des dockers embarqués, chinois, tout ça machin. Évidemment, en respectant pas les conditions de salaire minimales. Donc pour eux, c'était la disparition d'un métier. Et alors à Marseille, on retrouve un petit peu ce type de conflit, c'est-à-dire que les gens qui travaillent au port de Marseille, en fait, se sont totalement exclus du développement économique de leur propre port, dans la mesure où il y a des contrats qui sont signés. Donc en l'occurrence, le dernier, c'était celui de GDF qui avait construit un branchement et un débranchement de méthanier, en fait, pour le gaz, et finalement qu'il avait tout simplement prévu d'amener ses propres employés pour faire le raccordement, excluant de fait toute une partie des dockers qui travaillaient sur place, qui sont eux aussi soumis à la précarité, d'où la grève lancée par la CGT. Donc ça fait quand même 14 jours qu'ils sont en conflit, et là évidemment ils sont en position de force pour une fois, puisque on risque de manquer d'ici une semaine, enfin si on en croit les médias, d'approvisionnement. Donc la gare, on leur dit, tenez bon.
Alors c'est pire qu'à ce qu'on connaissait avant, parce qu'avant on connaissait les équipages avec un maître hongrois, avec un second turc, et puis des ouvriers polonais dans les bateaux, hein. Et maintenant ils sont carrément sur les quais, quoi.
Voilà, c'est excellent, monsieur. C'est tout à fait ça. C'est la mondialisation.
Voilà.
et alors dans le même genre, hein, je voulais donc citer faire de la pub, allez, pour l'Humanité, qui a publié un article récemment qui s'appelle 2 ans de travail sans être payé, et qui donne l'exemple d'un informaticien indien qui avait un diplôme d'ingénieur et qui était embauché en France via une entreprise française intermédiaire, pour être transféré illico, donc à Belfort. Bon, c'est-à-dire qu'il arrive en France, il savait pas où il allait, mais ensuite il a appris qu'il allait à Belfort. Il a travaillé 2 ans sans être énuméré, c'est-à-dire qu'il avait juste le gîte et le couvert.
Ah oui.
Et il a eu toutes les malles. Quand il allait voir les prud'hommes, on lui a d'abord recommandé de se faire payer. Quand il a manifesté son désir d'être quand même un peu payé, un minimum,
au bout de 2 ans,
on l'a viré.
Ah oui.
Voilà. Et il a eu toutes les peines du monde, ou plutôt les prud'hommes ont toutes les peines du monde à éplucher les contrats, ou à traquer l'illégalité dans les contrats, parce que c'était des cascades de sous-traitance et c'était a priori pas tout à fait illégal. Et son dossier a mis 3 ans à être traité.
Oh là là, 5 ans sans être payé, quoi.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc, il vivait dans les rues de Belfort, comme SDF. Et avant que son dossier n'aboutisse, il a été expulsé. Voilà. Et donc, il est revenu spécialement en France pour l'audience des prud'hommes, qui lui a donné raison. Mais comme il a affaire à une grosse boîte qui s'appelle SA Takeyes Technosoft France, bon voilà, c'est une boîte informatique. Voilà, donc ouais. C'est fait. Et évidemment, ils vont éplucher tous les recours pour ne pas payer. Et donc, ça montre bien la mise en place d'un système qui permet, en toute légalité, de faire venir des gens de l'étranger pour ne pas les payer. Et je rappelle que nous, le dernier exemple ici qu'on a donné, c'était en Haute-Savoie, où on avait fait venir des ouvriers polonais par l'intermédiaire d'une boîte allemande, inscrits sous le registre des artisans, c'est-à-dire qu'ils n'avaient droit à rien, en fait, même pas à être payés au minimum. Oui. Et tout ça pour les faire bosser pour un palais de justice. Ils n'ont évidemment pas été payés. Et lorsqu'ils sont mis en grève, les boîtes de sous-traitants sont appelées à grand renfort des ce qu'on appelle des nervis, pour les expulser, pour les renvoyer en Pologne.
Eh bien, vive ce monde dans lequel nous vivons.
Libéralisme.
Le libéralisme. Christophe, les SDF qui meurent de froid, alors dis-moi un peu là.
Oui, une petite brève, puisque la pauvreté engendre l'exclusion et l'exclusion engendre la mort, puisque le collectif Les Morts de la Rue a annoncé hier dans un communiqué qu'ils avaient recensé 145 sans-abri morts dans la rue de novembre 2006 à mars 2007, dont 91 en Île-de-France. L'année précédente, ces mêmes chiffres avaient révélé 122 victimes. La durée de vie moyenne de ces 145 morts de la rue fut de 49 ans contre 80 pour le reste de la population française. Et au sortir de l'hiver, quand reprennent les expulsions légales qui mettent des personnes à la rue, ce collectif continue d'apprendre de nombreux décès au même rythme, c'est-à-dire un par jour environ.
Très bien. On va écouter une petite chanson de Jean Ferrat et ensuite on prend la parole.
Comme cul et chemise, comme la ronce en foire, j'ai vu se constituer tant d'associations, mais il n'en reste qu'une au travers de l'histoire. Ainsi, selon la tradition, des craques en sang brèveuse, des forts en télérum, qui nous donneront encore bien des satisfactions, le sabre et le goupillon.
Et oui, vous êtes bien sur France Culture aujourd'hui, ce soir à 21h25, avec Julien qui vient de nous rejoindre, qui va nous parler des raisins de la colère. Alors,
bonsoir, bienvenue sur France Culture avec Julien.
Alors, pourquoi je vais vous parler des raisins de la colère? D'abord, pour être dans le ton de l'émission.
Ouais, c'est un peu vieillot tout ça.
C'est vieillot, c'est du classique. Hein. Alors, pour rester dans le ton de l'émission, déjà, on va parler de Karl Marx et de Lafargue, puisque l'une des grandes utopies du marxisme, c'était quand même que les ouvriers puissent avoir un peu de temps pour eux, pour lire, pour s'instruire, pour s'éduquer, pour mieux lutter ensuite contre les capitalistes et les patrons. Donc, j'ai envie de vous dire déjà la première chose, c'est lisez des romans, et surtout, le roman n'est pas bourgeois. Le roman peut se lire. Alors pourquoi je vous parle de ce bouquin-là? Parce que il m'a fasciné totalement. Je l'ai pas lu à 16 ans. J'ai eu pourtant des bons profs comme vous, hein, au lycée, qui m'ont dit lis les raisins de la colère. Mais c'est un âge où on préfère, n'est-ce pas,
draguer les filles,
n'est-ce pas les filles, j'allais dire, les
oui,
mecs,
tout à fait, oui.
Aller draguer les filles ou forniquer dans tous les coins et se droguer comme des malades. Donc on n'a pas lu ces classiques-là et on les relit plus tard avec un peu plus d'expérience et ça fait du bien. Alors c'est un grand roman d'abord parce qu'il y a des personnages extraordinaires avec des profils vraiment bien foutu.
Aussi bien que Balzac.
C'est mieux que Balzac à mon avis parce que c'est américain. Ensuite c'est un pamphlet au sens figuré du terme anticapitaliste, j'ai vraiment découvert, et c'est surtout extraordinairement un roman d'initiation au combat politique. Donc effectivement, oui, nos profs ont eu raison de vouloir nous faire lire à 16 ans. On le lit un peu plus tard, c'est pas bien grave. Alors de quoi il s'agit en fait? Il s'agit des États-Unis dans les années 20-30 et d'une famille de paysans qui vit en métayage, donc qui n'est pas propriétaire de sa terre et qui se fait exclure de sa terre par des compagnies en fait qui sont en train de se concentrer, des compagnies de patrons. Donc cette famille là elle est chassée de sa terre, contrainte à l'exil et en partance vers l'Eldorado californien. On est un peu dans le mythe de la ruée vers l'or, mais on est dans un mythe démythifié, puisque cette ruée vers l'or, c'est une ruée vers la pauvreté, vers la misère et vers l'exploitation capitaliste. Alors, c'est assez extraordinaire de voir d'ailleurs la façon dont Steinbeck, là dans le côté romancier en fait, traite du rapport à la terre. Je vous rappelle quand même que la mécanisation aux États-Unis, elle commence bien avant celle qui a lieu en France, puisqu'en France, c'est quand même plutôt après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Et que on a vu les conséquences que ça a eu sur la société rurale. Donc, cette famille vit sur une terre qui est pauvre, qui est arable, mais qui est pauvre et très très aride. Et c'est cette terre qui leur donne leurs moyens de subsistance, quoi.
Dont ils ne sont pas propriétaires.
Dont ils ne sont pas propriétaires. Alors, il y a une scène qui est extraordinaire et qu'on voit très bien dans le film de John Ford, d'ailleurs, qui est tiré du roman de Steinbeck. C'est une scène assez extraordinaire où la famille va être expulsée et où l'homme, le père de famille, représentant
le patriarche,
a son fusil. On est tout à fait dans le mythe américain. Et il y a un tracteur qui vient tout bousiller sur son passage, tout écraser. Donc, qui écrase les barrières, qui écrase les semences, les terres, et qui va jusqu'à venir écraser la maison, qui est une maison de briques et de broc en bois, quoi.
En fait, ils sont expulsés, quoi.
Ils sont totalement expulsés. Le problème, c'est que sur ce tracteur, il y a un jeune qui est un voisin, qui est le fils d'un voisin. Et quand l'homme, avec son fusil, lui dit « Va-t'en, sinon je vais te tirer dessus », cet homme-là lui dit « Mais c'est pas moi, puis tu me connais, je suis le fils du voisin. Donc tu vas pas tirer sur moi, je sais que tu ne tireras pas sur moi. » Et le tracteur avance comme ça, il y a une espèce d'intrigue comme ça, le tracteur avance et l'homme est totalement dépourvu. Il lui dit mais alors si je te tire pas sur toi, sur qui je tire? Et là le jeune homme dit mais je ne sais pas, sur les propriétaires. Mais derrière et c'est qui les propriétaires? Mais je ne sais pas. Derrière il y a des entreprises. Et derrière il y a des entreprises, il y a quoi? Il y a des actionnaires. Et derrière les actionnaires, il y a des banques et des assurances. Donc c'est tout à fait la symbolique du capitalisme. On ne sait plus qui attaquer. On est loin du mythe américain et de l'Indien qui vient attaquer la ferme. On sait sur qui tirer. Avec le capitalisme, c'est pas qu'on sait plus sur qui tuer, c'est que ça devient très complexe. Et le personnage principal qui est joué dans le film de Ford par Henry Fonda, c'est quoi au départ? C'est un repris de justice, c'est un homme qui sort de prison, qui a fait 50 tôles, qui est analphabète, qui a pas ce capital qui lui permet de comprendre tout de suite. Et il comprend au fur et à mesure du roman, par l'expérience vécue, il comprend les mécanismes du capitalisme au fur et à mesure qu'il les vit, qu'il vit la pauvreté, qu'il vit l'angoisse, qu'il vit la précarité. Donc, il y a cette idée-là de roman initiatique. On est dans l'engagement politique, mais un engagement qui vient au fur et à mesure, avec un personnage qui n'a pas tout compris dès le départ, mais qui comprend au fur et à mesure. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous lire deux ou trois extraits du roman.
Oui, vas-y.
Une chose, on est donc dans la mécanisation de l'agriculture, on est bien d'accord. Donc on est face à des paysans qui se retrouvent sans terre et à des grandes exploitations agricoles naissantes qui vont laisser des terres en jachère, laisser des gens mourir de faim avec des terres qui restent elles-mêmes en jachère. Donc c'est cette famille, comme des millions d'Américains partent vers l'Eldorado californien, dans laquelle on leur promet du travail. Il y a un exemple qui est assez extraordinaire, c'est qu'avant de partir, ils reçoivent tous, toutes ces familles qui sont obligées de partir, des prospectus dans lesquels on leur dit, il y a de l'embauche en Californie. Et le personnage, quand ils arrivent en Californie, il n'y a pas d'embauche en réalité. Et il ne comprend pas pourquoi ces grandes entreprises développent, dépensent des millions et des millions pour fabriquer des prospectus. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup moins d'emplois qu'il n'y a écrit sur les prospectus. Et il cherche à comprendre. Et c'est ce mécanisme-là. En fait, on fait venir un maximum de gens pour les payer de moins en moins parce qu'on attise la concurrence entre les hommes. Et le premier extrait que je voudrais vous lire, c'est justement cette concurrence entre les hommes. C'est donc à la page 472, c'est un dialogue entre les deux deux personnages, le père de cette famille qu'on suit tout le roman et un autre personnage. Ben et moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Demande pas. Nous n'avons plus d'argent. Un de mes garçons a bien trouvé de l'embauche pour quelques jours, mais c'est pas ça qui va donner à manger à toute la famille. Je vais aller prendre leurs 25 cents. Je peux pas faire autrement. L'autre personnage, chapeau noir, leva la tête, montrant à la lumière un manteau broussailleux et un cou noueux sur lesquels les poils de sa barbe s'étalaient comme de la fourrure. C'est ça, fit-il d'un ton amer. Allez-y. Et moi, je suis un homme à 25 cents. Vous allez me prendre ma place pour 20 cents. Après ça, j'aurai le ventre creux et je la reprendrai pour 15. Allez-y, faites-le. Mais qu'est-ce que vous voulez que je foute, bon Dieu, dis pas. Je ne peux même pas crever de faim pour vous permettre de toucher 25 cents. Chapeau noir laissa retomber la tête et son menton rentra dans l'ombre. Je sais pas, dit-il, je sais vraiment pas. C'est déjà assez dur de travailler 12 heures par jour pour ne pas manger à sa faim. Mais par-dessus le marché, faut encore tirer des plans sans arrêt. Mon gosse n'a pas assez à manger. Je ne peux pas réfléchir tout le temps, nom de Dieu. Ça finit par vous rendre fou. Mal à l'aise, les hommes se dandinaient d'un pied sur l'autre silencieusement. Cet extrait est très révélateur. On est face à deux hommes, l'un qui travaille pour 25 cents pour une misère, et l'autre qui dit « Mais moi, il faut que je travaille, il faut que je fasse vivre mes gosses. Donc j'accepterai pour bosser pour 20 cents. » Et l'autre lui dit « Mais si tu bosses pour 20 cents, moi, je viendrai peut-être travailler pour 15. » Et on a finalement ce capitalisme qui désolidarise les hommes entre eux en créant une concurrence tellement forte parce qu'il faut faire bouffer les femmes et les enfants, quoi. Donc ça, c'est le premier exemple. J'ai le temps de lire un deuxième extrait.
Un deuxième exemple, sans problème, oui.
Donc là, c'est un deuxième exemple et c'est là l'extraordinaire qualité d'un type comme Steinbeck. C'est que le roman, c'est à la fois des personnages, donc une intrigue, une énigme, etc. et des considérations d'ordre, on va dire, sociologique et politique à certains moments du roman. Donc je me dépêche, je cherche la page. oui. 486, d'accord. J'y vais, je fonce. C'est un exemple sur ce que le capitalisme peut produire de pire dans le système agricole. Vous allez voir. La décomposition envahit toute la Californie et l'odeur douceâtre est un grand malheur pour le pays. Des hommes capables de réussir des greffes, d'améliorer les produits, sont incapables de trouver un moyen pour que les affamés puissent en manger. Les hommes qui ont donné de nouveaux fruits au monde sont incapables de créer un système grâce auquel ces fruits pourront être mangés. Et cet échec plane comme une catastrophe sur le pays. Le travail de l'homme et de la nature, le produit des cèpes, des arbres, doit être détruit pour que se maintiennent les coûts. Et c'est là une abomination qui dépasse toutes les autres. Des chargements d'oranges jetés n'importe où. Les gens viennent de loin pour en prendre, mais cela ne se peut pas. Pourquoi achèteraient-ils des oranges à 20 cents la douzaine s'il leur suffit de prendre leur voiture et d'aller en ramasser pour rien? Alors, des hommes armés, de lances d'arrosage, aspergent de pétrole les tas d'oranges. Et ces hommes sont furieux d'avoir à commettre ce crime et leur colère se tourne contre les gens qui sont venus pour ramasser les oranges. 1 million d'affamés ont besoin de fruits et on arrose de pétrole les montagnes dorées et l'odeur de pourriture envahit la contrée. Il y a là un crime si monstrueux qu'il dépasse l'entendement. Je termine. Il y a là une souffrance telle qu'elle ne saurait être symbolisée par les larmes. Il y a là une faillite si retentissante qu'elle annihile toutes les réussites antérieures. Un sol fertile, des files interminables d'arbres au tronc robuste et des fruits mûrs. Et les enfants, atteints de pellagre, doivent mourir parce que chaque orange doit rapporter un bénéfice. Et les coronaires inscrivent sur les constats de décès, morts dus à la sous-nutrition. Et tout cela parce que la nourriture pourrit, parce qu'il faut la forcer à pourrir. Voilà, un exemple assez frappant du roman, de la force poignante de ce roman-là. Donc, pour conclure, d'abord lisez ce roman, comme oui, d'autres oui. romans.
Comme Les souris des hommes aussi, de
comme
même
Les souris
auteur.
Des hommes, et comme Les pâturages du ciel aussi, absolument, du même Steinbeck.
Tout à fait, Steinbeck est un grand auteur. Quoi.
Pour ceux qui aiment la mécanique, c'est extraordinaire, parce que la voiture est un outil indispensable pour faire cette traversée vers la Californie, il y a des termes extraordinaires. Et voyez le film de Ford, qui est un film un peu expressionniste, qui est pas toujours très proche du roman initial. On aurait préféré une vision un peu néo-réaliste à la Visconti. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais le roman, c'est une forme supérieure de l'écriture et on peut trouver à travers le roman la force de l'engagement, je pense.
Merci beaucoup, Julien, pour ta chronique excellente.
C'était la chronique de France Culture. Voilà. Merci de l'avoir suivi.
Version militante. Hein.
Très bien. On finit sur les annonces avant de laisser la parole à nos collègues qui vont nous suivre ensuite. Alors demain, donc c'est une grande manif Tintamarre, donc apportez vos casseroles et vos fourchettes, faites beaucoup de bruit, donc c'est à République à 14h. Voilà, donc c'est à l'annonce, c'est une manif de appelée par AC, MNCP et la PES, hein, donc c'est bien sûr sur le chômage et la précarité. Faites du bruit, ça fait pas de mal. Et puis une deuxième annonce également, donc qu'on nous a donné cette émission d'avant sur les prisons qui nous a donné cette annonce en partant. Donc c'est pour lutter contre les nouvelles prisons. Demain un grand débat, donc samedi 31 mars 2007 à 15h, au 33 rue des Vignoles. Allez-y, c'est au métro Avron. Allez participer à cette grande table ronde. Voilà. Très bien, je vous remercie messieurs d'avoir fait cette émission. Messieurs, dames, merci de l'avoir suivi. Je vous embrasse tous et toutes et vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
Bonsoir.
Thank you.